Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour Sophie de Lombert.
Bonjour Nathalie.
Ravie de vous accueillir dans ce rendez-vous pour les parents qui ont des adolescents, on va dire de la sixième, puis de grands adolescents au lycée, à la terminale et bien sûr aussi des étudiants. Alors je rappelle que vous êtes coach d'adolescents, de jeunes adultes et de parents. Vous confirmez ?
Oui, totalement. J'accompagne également les parents qui ont des difficultés de communication ou de gestion en fait, du quotidien avec leurs enfants.
Alors, vous parlez de gestion au quotidien. Il y a bien une gestion au quotidien depuis plusieurs mois à la Covid-19. Les parents sont parfois un peu désemparés face à à la situation actuelle, au protocole sanitaire et tout ce que nous connaissons.
Alors ça a été, il me semble, le cas énormément lors du premier confinement. On a eu un premier confinement auquel on ne s'attendait pas vraiment. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Personne n'était préparé.
Personne n'était préparé à ça. Et puis, quasiment du jour au lendemain, je me souviens, c'était un mardi, nous sommes retrouvés confinés. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de compliqué, comme tout ce qui n'est pas préparé. Imaginez demain avoir à faire un gâteau sans que vous ayez la recette avant. Le gâteau ne sera pas forcément réussi. Et alors, même si l'analogie n'a pas grand-chose à voir, c'est quand même ce que l'on a retrouvé dans l'éducation des parents et dans la gestion de leur quotidien, c'est-à-dire se retrouver avec des enfants dans des espaces plus ou moins confinés, c'est-à-dire que tous n'étaient pas logés à la même enseigne. Il y avait ceux qui avaient des grandes maisons et puis d'autres qui habitaient de petits appartements. Et ça a été très compliqué à gérer le quotidien. Du côté des enfants, du côté des adolescents, tous ne l'ont pas vécu non plus de la même façon, mais j'ai quand même remarqué, puisque moi j'avais gardé en distanciel mes clients, j'ai eu cette chance-là, j'ai pu en fait remarquer qu'au départ ils l'ont tous pris comme un peu quelque chose de nouveau, c'est-à-dire comme un peu un jeu, et que rapidement le fait de ne pas avoir de date butoir de fin, ça a été très compliqué. Et l'agressivité qui était contenue à l'intérieur de chacun d'eux est quelque chose en fait qui a vu le jour au bout d'un mois, un mois et demi, parfois, alors c'était en moyenne, mais en tout cas il y a eu des familles qui ont eu affaire à des choses qu'elle n'avait jamais vécues auparavant, c'est-à-dire beaucoup d'agressivité à l'intérieur, au sein
Alors,
de la famille.
Au fond, c'est presque un bilan avec votre activité de coach auprès de ces jeunes, puisque vous accompagnez des collégiens. Voilà, l'impact est certainement différent des lycéens et des étudiants quelques mois plus tard, après ces périodes de confinement, reconfinement, ces périodes aussi de couvre-feu que nous connaissons. Quel est un peu le bilan et l'impact que vous pouvez nous relater.
Moi, ce que j'en retiens et ce qu'il en ressort, c'est le fonctionnement du groupe. Le fonctionnement du groupe, c'est un ensemble d'individus qui contient, pour arriver à bien vivre ensemble, son agressivité à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que l'agressivité que l'on a en temps normal est contenue en permanence de façon à ce que le groupe reste uni. Et lorsque vous êtes confiné, si vous restez trop longtemps au même endroit sans pouvoir vous échapper, à un moment donné, cette agressivité va ressortir. Et il y a un distinguo à faire entre ce premier confinement et le second confinement. Enfin, je vais l'appeler pseudo-confinement couvre-feu. Parce que là, aujourd'hui, nous avons, et puis nous l'aurons peut-être aussi par la suite, un couvre-feu qui va durer, alors soit qui commencera à 21h, enfin c'est 20h.
20h.
20h, ou peut-être même 18h. En tout cas, au niveau de l'impact sur les collégiens, je remarque qu'elle n'est pas la même que l'impact sur les étudiants.
Alors, c'est-à-dire
C'est-à-dire, pour être plus explicite, les collégiens vivent beaucoup mieux cet état aujourd'hui de pseudo-confinement, même si les gestes barrières sont nombreux et qu'il y a tout un protocole à respecter. Ils vont au lycée et on sait qu'un adolescent a besoin de son groupe, de retrouver ses amis pour vivre, parce qu'on part du postulat du base qu'il a besoin d'être reconnu pour se reconnaître. Donc, en allant au collège, en allant au lycée, il maintient une vie sociale qui lui permet finalement d'exister. Alors, ça, c'est très intéressant parce que si par extension, on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on se dit que le réseau social ne suffit pas. Et que finalement, même s'il les a beaucoup aidés, même s'il fait partie de leur quotidien, au jour le jour, ils ont quand même besoin de la vraie vie et de cette reconnaissance par autrui.
Donc là, on parle bien des collégiens.
Là, on parle des collégiens.
Au fond, c'est un aspect peut-être nouveau, mais bon à entendre pour des parents qui nous écoutent. On sait combien les réseaux sociaux prennent beaucoup de place chez les adolescents, mais malgré tout, le virtuel ne gagne pas. L'adolescent au collège a besoin d'un vrai relationnel, du vivant dans la relation.
Exactement.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Mais c'est une excellente nouvelle. Oui. C'est une excellente nouvelle et c'est assez rassurant. Alors, malheureusement, tous les adolescents n'ont pas été logés à la même ancienne, à la même enseigne, pardon. Les plus fragiles, ceux qui avaient déjà tendance à être un peu
en difficulté
et qui s'échappaient à travers les écrans sont des jeunes qui effectivement ont été happés par ce gouffre, par ces écrans-là et y ont passé énormément de temps et aujourd'hui ils sont de plus en plus addicts. Et ça,
vous en accompagnez aujourd'hui ?
Alors j'en accompagne et j'ai l'exemple de ce jeune de 17 ans qui au premier confinement...
C'est plus un collégien là, hein, c'est un lycéen, 17 ans.
Oui, 17 ans. Ce lycéen de 17 ans qui, au premier confinement, en fait, est passé de 3 heures par jour à 6 heures par jour et qui, aujourd'hui, est à 12 heures par jour. Alors, vous allez me dire, mais comment fait-il pour aller à l'école ? C'est-à-dire, ce jeune, il est quand même en terminale. Aller à l'école, suivre ses cours et jouer 12 heures par jour. Bah, tout simplement parce que la plupart de ses cours sont en distanciel et que lorsqu'il est en distanciel, il est à 12 heures par jour et sinon, il joue la nuit. Donc ça, c'est...
Donc là, c'est une vraie pathologie qui s'installe.
Oui, c'est une pathologie.
Donc,
on n'est pas du tout dans la norme.
Et votre accompagnement ne suffit pas.
Absolument pas. Absolument pas. Effectivement, là, j'ai besoin de renvoyer ce jeune vers un professionnel de la santé, de l'addiction.
Alors, dans ce cas très précis de ce jeune de 17 ans, vous convoquez les parents
Alors, j'appelle les parents où je les vois, je les reçois à mon cabinet quand il est possible de les recevoir. Et surtout, j'ai les aiguilles vers des centres. Je sais, par exemple, que Joseph Ducoing a tout ce qu'il faut en addictologie pour accompagner ces jeunes ou d'autres. Hein. Il y a d'autres adresses, il faut en tout cas aller demander les conseils et le suivi d'un spécialiste.
Donc on peut entendre, rassurant aussi pour les parents, que un jeune addict peut aussi sortir de cette addiction par un suivi avec un professionnel.
Parfaitement.
Qu'est-ce qu'il y en est des lycéens très vite, hein, après les collégiens ?
Alors, les collégiens, les lycéens ont vécu la même chose. En revanche, il y a un distinguo à faire entre les collégiens, les lycéens et les étudiants. Les étudiants qui ont vécu le premier confinement assez mal, comme les collégiens et les lycéens, cette deuxième période les a beaucoup affaiblis dans le sens où ils se sont retrouvés pour la plupart dans des situations précaires. D'abord parce que énormément de leurs études sont faites en distanciel et du coup il n'y a plus ce côté présentiel. Et j'ai une jeune fille qui a 20 ans qui me disait j'ai passé 2 ans en prépa, ça fait 3 ans qu'on me vend des études canon, alors j'utilise même ces termes, hein, des études canon, des fêtes, des week-ends d'intégration et tout ça, on m'a volé ma première année d'études. Alors cette jeune fille, je dirais, elle est représentative de beaucoup d'entre eux, mais je parlais de précarité parce que ces jeunes qui vivent les cours en présentiel, en distanciel, ils n'ont plus de relations sociales, ils sont chez eux et parfois dans des petites chambres d'étudiants de 12 mètres carrés, voire même un peu moins, parce que j'avais un jeune qui était dans un 10 mètres carrés. Il n'y a plus de relations sociales, je le disais tout à l'heure, ils sont très nombreux à être loin de leur famille et certains, en fait, pour préparer leur partiel et rester concentrés, ont fait le choix de ne pas retourner auprès de leur famille. Ils n'ont plus leur petit boulot qui leur permettait, en fait, d'avoir un peu d'argent de poche pour payer les frais quotidiens de la gestion de leur appartement ou même de leur nourriture. Et puis, ils sont extrêmement inquiets face à leur à la valorisation de leur diplôme.
Alors c'est plutôt inquiétant là ce que vous relatez sur cette précarité des étudiants aujourd'hui. Alors que faire et que mettre en place pour alors, les, pour y a les des parents qui nous écoutent dans des clés pour grandir et qui ont des étudiants actuellement.
Alors il y a des choses qui ont des mises en place parce que je lisais par exemple hier que le CROUS a mis en place par exemple des repas emportés au Resto U. Donc c'est une façon de rencontrer ou de croiser certains déjà et puis c'est une façon de se nourrir pas cher puisque ces repas emportés ne coûtent que 2 euros. Ce qui est très important me semble-t-il aujourd'hui, c'est de maintenir un rythme, c'est-à-dire levez-vous et je parle à tous ces étudiants ou à tous ces parents qui ont la chance d'accompagner leurs enfants étudiants, faites en sorte qu'ils se lèvent le matin, qu'ils se préparent et qu'ils aient en fait un rythme de vie avec un temps de travail suivi de temps de pause, suivi de temps pour les repas, de façon à ce que leur vie soit extrêmement rythmée et structurée.
Alors, ce rythme est possible que vous décrivez pour des étudiants qui sont encore chez papa et maman, mais pour l'étudiant qui est dans sa chambre d'étudiant dans une grande ville, donc qui se retrouve confronté à lui tout seul, à cette situation, qu'est-ce qu'il peut mettre en place?
Garder le contact un maximum avec ceux qui font les mêmes études que lui ou des amis proches ou des voisins ou peu importe, qu'il fasse du sport, qu'il ne se couche pas trop tard pour effectivement ne pas être trop fatigué et si jamais ça ne va pas, qu'il puisse prendre contact en fait avec un dispositif d'écoute qui est le 0800 130 000. Pourquoi ? Parce que c'est un numéro vert et qu'ils vont être aiguillés de façon à être écoutés parce que l'on sait que pour eux, c'est une période particulièrement difficile.
Merci Sophie de Lambert. On vous retrouve
Nathalie.
Dans quelques jours. Au revoir.